Depuis le début, l'électrocardiogramme n'a pas bougé.
Dominique Vallière.
Ça devient pas mal une condition sine qua non.
S'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois.
Yasmine Abdel Fadel.
Ce serait tellement catastrophique.
La rencontre.
S'il va, il va se faire soincer.
C'est difficile de se battre contre des chocs qui arrivent dans la boîte à mal.
Quand l'idéologie rencontre la réalité, c'est souvent la réalité qui gagne.
C'est pas comme ça qu'on tisse des liens avec les institutions.
Puis le temps file rapidement.
La rencontre Vallière-Abdel Fadel.
Dominique Yasmine, bonjour à vous deux.
Allô, allô.
Alors, on va commencer en parlant de Jason Kenney qui a perdu son, en fait, qui a gagné son vote de confiance, mais pas suffisamment, et qui l'a annoncé qu'il quittait son poste comme chef du Parti Uni conservateur de l'Alberta, et ça va faire en sorte qu'il va aussi quitter son poste de premier ministre. Et là, j'ai l'impression que je viens tout juste de vous perdre. Alors, le temps qu'on vous retrouve, on va expliquer ce qui s'est passé du côté de l'Alberta. Bon, est-ce que vous êtes là?
Un sur deux.
Bon, OK. Dominique, on va commencer avec toi. On va attendre que Yasmine retrouve le signal. Donc, Jason Kenney qui va cesser d'être chef de son parti, le Parti conservateur uni.
Ouais, donc gagne son vote à la direction, mais par une marge infinitésimale. Il a gagné quoi, 51-4? Et finalement, décide de se dire, après avoir dit, ouais, n'importe quoi, en haut de 50% plus 1 va me satisfaire, finalement, décide de jeter la serviette. Puis, je pense que faut pas être un fin observateur de la politique albertaine pour comprendre que c'était absolument intenable. Moi, j'ai reçu hier la notification, puis nous qui suivons ça un peu plus que la moyenne des ours, là, j'ai reçu la notification disant qu'il avait gagné avec 51-4. Je me suis dit, oh, pas sûr qu'il va faire plusieurs semaines. Et quoi, cinq minutes après, on recevait l'autre qui disait, ouais, après y avoir bien pensé, il s'en va. C'est un peu le moment Bernard Landry, hein, qui avait fait ça à 76%, lui, 76%. Il me semble, et qui trouvait que c'était pas acceptable, qui avait quitté, qui avait amené une autre course à la direction au Parti québécois. C'est quelque chose quand un chef décide de lui-même de se dire, ben, ça marche pas, mais Jason Kenney, c'est vrai que ça marche pas, là. C'est-à-dire qu'il y avait des enquêtes sur la course à la direction précédente, parce qu'on disait qu'il y aurait probablement eu des votes qui avaient été achetés en lot, là. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de cartes de membres qui avaient été vendues de manière un peu particulière. La gestion de la COVID en Alberta, c'était catastrophique. La gestion politique, j'entends, rien à dire contre les soignants là-bas et tout, là, mais la gestion par le cabinet du premier ministre, on était plus occupés à gagner des points politiques que à savoir qui était capable d'obtenir des soins, qui était capable d'obtenir des vaccins. Ça s'est pas fait du tout comme au Québec, là.
Ouais, mais il y avait aussi beaucoup une frange très à droite qui disait qu'on en faisait trop en Alberta, là. C'est ce qui lui a fait le plus mal, là.
Absolument, mais donc quand tu télescopes les problèmes internes de ton caucus et que tu les fais subir à tout est citoyen, à toute la population, c'est pas nécessairement la façon de bien gérer les choses.
Yasmine?
Ben, le parti conservateur, en fait, le mouvement conservateur en Alberta a l'habitude aussi de juste envoyer paître ses chefs, tu sais, on s'en rappelle, ils l'ont fait avec Alison Ford également. Jason Kenney, depuis la pandémie, c'est la pandémie qui a fait de lui une autre victime, finalement, de cette crise, une victime politique. Il essayait de ménager la chèvre et le chou, il essayait de ménager la frange à droite avec juste la réalité de la pandémie, là, comme puis les mesures qui devaient être faites. C'est toujours difficile quand ta population est aussi divisée. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y avait la personne qui était contre lui à la course au leadership, qui menait directement et ouvertement une campagne contre lui, notamment sur Facebook, sur les réseaux sociaux, qui disait qu'avec un Jason Kenney, c'est Richard Notley qui reprendrait le pouvoir aux prochaines élections, puis qui serait majoritaire. C'est Jason Kenney est resté. Et donc, il est devenu un peu l'espèce d'épouvantail de la droite albertaine pour leur dire, si vous voulez retrouver le NPD au pouvoir, ben ça va être... Jason Kenney va vous mener vers ça, alors qu'il est premier ministre de l'Alberta. Tu sais, c'est quand même assez extraordinaire de voir que quelqu'un qui n'a pas gagné le leadership devant Jason Kenney est capable de faire tomber Jason Kenney avec une campagne bien organisée pour remonter les militants, finalement, de son parti contre lui.
OK, mais là, regardons Jason Kenney, mais prenons un pas de recul sur le Parti conservateur canadien. J'ai un peu l'impression que c'est un avertissement, moi, pour ceux et celles comme Jean Charest qui pensent être capables d'arriver là, peut-être la gagner, ça va être serré, mais d'après ça, de contrôler le parti. Puis de l'autre côté, un Pierre Poilievre qui souffle sur ces braises-là, de ces gens-là, et les encourage et les convainc. Et c'est tout du monde qui ont voté contre Jason Kenney qui pourrait voter pour Pierre Poilievre, là.
Ouais, c'est sûr. Puis Yasmine parlait d'Alison Redford. Dans les 7 derniers premiers ministres albertains, il y a juste Rachel Notley, donc du NPD, qui a terminé son mandat. Et donc, ça a commencé avec Ralph Klein, qui lui aussi a perdu un vote à la direction, mais même s'il y avait eu un vote beaucoup plus fort que ça. Puis ensuite, tous les autres chefs du Parti conservateur ou du Parti conservateur uni ont quitté pendant le mandat. Donc, il y a une instabilité propre au mouvement conservateur albertain, mais je pense que tu as raison de dire, si tu penses que le mouvement conservateur canadien agit comme il agissait il y a 10 ans ou comme il agissait il y a 20 ans, c'est se tromper. Donc oui, en ce sens-là, il y a un message que M. Charest devrait décoder. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces gens-là, même s'ils sont au pouvoir, là, le Parti conservateur albertain ou le Parti conservateur uni maintenant est hégémonique en Alberta depuis, mon Dieu, quoi, les années 50, les années peut-être 70 avec Peter Lougheed, mais ils sont jamais satisfaits de là où ils sont, puis des combats qu'ils gagnent, puis tout ça, il faut toujours qu'ils fassent un tout petit pas de plus vers la droite, ce qui fait qu'à un moment donné, c'est comme intenable, et comme l'Ouest est la locomotive du mouvement conservateur canadien, ben ça rejaillit sur le grand frère fédéral.
Un mot là-dessus?
En fait, la seule porte de sortie, c'est que le nombre de comtés, que ce soit en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, sont limités au fédéral. Tu sais, c'est pas comme une course au leadership provincial du Parti conservateur uni où là tu parles juste à ce monde-là, puis il y en a pas d'autres là. Tu sais, là c'est comment gérer ça, gérer ces militants beaucoup plus à droite, en noyautant le parti, je dis noyautant positivement, là, de d'autres conservateurs qui, eux, veulent changer. C'est le seul moyen que des Patrick Brown, des Jean Charest ou autres peuvent voir une potentielle victoire. Mais autrement, plus ça tourne à droite, plus le Parti conservateur fédéral lui-même imploserait s'il devient une espèce de bloc de l'Ouest.
Mmh. On l'a vu avec Ed Fass, qui était critique en matière de finances, qui a critiqué la position de Pierre Poilievre et qui s'est fait, montrer la porte sur son poste de porte-parole, là, on s'entend, là, mais pour un politicien, pour un député, c'est quand même une punition importante, là.
Ben, c'est quand même quelque chose. Il avait pas dit, il a pas pris le micro pour dire Pierre Poilievre est un moron, là. Il a dit, je trouve que d'attaquer le président de la Banque du Canada, c'est mal
avisé. Ça mine notre crédibilité comme parti.
C'est ça. Donc, tu sais, ce que je pense, ce que la majorité des gens qui nous écoutent pensent aussi. Mais donc, dire ça en ce moment, au Parti conservateur, c'est mettre le pied vers l'excommunication.
C'est assez fou de voir que le caucus et la chef par intérim ne décident pas de défendre les institutions comme celle de la Banque du Canada puis leur indépendance. Puis ça, c'est ce qui est de plus dangereux, pas juste pour le Parti conservateur, mais pour finalement la démocratie, pour nos institutions, de voir que quelqu'un qui dit vouloir prendre ses responsabilités comme critique en matière de finances, avec les responsabilités qui viennent avec, de dire wow, on peut pas miner la crédibilité de la Banque du Canada, se faire démissionner de son poste des finances. Là, si on pensait que le Parti conservateur était divisé, ben c'est beaucoup plus profond que ça.
Un mot sur sondage léger dans le journal. C'est un sondage sur l'immigration, sur le français, sur le fait qu'actuellement, là, selon les Québécois, on accueille suffisamment d'immigrants avec un seuil de 50 000. Là, 45% pensent cela. 23% pensent qu'il faudrait l'augmenter. 21% qu'il faudrait le réduire. Ça tombe bien. C'est un sondage qui est en ligne avec les positions de la CAQ et c'est un sondage qui avait été commandé par la CAQ et coulé par la CAQ, Dominique.
Ouais, ben c'est ça. Coulé par la CAQ, c'est parce que ça dit exactement ce que ça veut qu'ils disent, hein. Mais c'est pas des chiffres qui m'étonnent. Ceci étant, moi, ce que je déplore, et là, je vais dire quelque chose que je ne dis presque jamais à ce micro-là.
Yasmine a raison. Donc, en vrai,
non, c'est pas Yasmine a raison. Ça, je le dis plus souvent, là, mais préparez votre clip, là. Paul Saint-Pierre Plamondon, sur ce débat-là, a raison. C'est-à-dire que, et là, je fais un point, OK? On arrête ici pour ce bout-là. C'est-à-dire que quand il dit que le débat ne se fait pas sereinement et sur des bonnes bases. Tu sais, quand le débat sur l'immigration arrive, premièrement, il arrive souvent en pré-campagne électorale, t'as toujours deux positions très claires. T'as des gens qui disent « bougeons pas » ou même « réduisons les seuils » et t'as d'autres personnes qui disent « doublons les seuils ». Et toutes les positions entre les deux, là, les gens qui disent « ben,
pas de place,
est-ce
là.
Que vraiment... » on est capable de faire l'adéquation entre les besoins en main d'œuvre, nos capacités d'intégration, la volonté d'envoyer les choses en les gens en région. Est-ce qu'on a des institutions qui vont être prêtes à les accueillir dignement à Saguenay, à Amqui, Rimouski, ouais. Puis Rouyn-Noranda, là, toutes ces positions-là, on les entend pas. Parce que tout ce qu'on entend, c'est 50 000 ou ben 40 000,
ou 100 000.
De l'autre côté, 100 000. Donc, le débat est toujours comme mal parti. Fait que moi, je suis pas étonné des chiffres qu'il y a dans le sondage de ce matin. Mais là où je pense qu'on doit faire une plus grande place dans notre compréhension, c'est de se dire que chaque unité dans ce 40 000, 50 000 ou 100 000 là, c'est une histoire personnelle. C'est un nouveau départ. Mmh. C'est une volonté d'améliorer sa vie. Puis je pense pas qu'en ce moment, quand on en parle en chiffres là, de manière très large, qu'on a une grande part pour ça.
Yasmine?
Chaque fois que je lis des articles comme ça, ça vient me chercher parce que, pour faire du pouce sur ce que disait Dominique, c'est que le monde ne réalise pas ce que c'est prendre ses bagages, dire au revoir à sa famille, à sa maison, à ses amis, puis dire « je vais m'installer au Québec, je vais m'installer ici ». Moi, personnellement, je l'ai vécu. Moi, je me rappelle dire bye-bye à ma grand-mère puis à ma tante parce que je savais pas quand est-ce que j'allais les voir. Moi, je me rappelle de ma mère qui me dit, comme j'étais une petite fille, de toutes tes poupées, t'as le droit à deux, lesquelles tu prends avec toi. Moi, je le sais, c'est quoi une première journée au primaire quand t'es nouvelle arrivant et que tu découvres une classe avec une nouvelle langue, avec de nouvelles personnes, avec de nouveaux codes culturels. Moi, je le sais, le stress de mes parents quand ils n'avaient pas de voiture, alors qu'ils en avaient laissé deux dans notre pays, dire « on va monter dans l'autobus pour aller chercher un loyer, pour aller chercher des cuillères, des verres puis des assiettes. » Tu sais, repartir à zéro, là. Alors que maintenant, quand on parle de ces histoires-là qui requièrent un sacrifice énorme, on parle d'eux comme une menace avant même qu'ils aient mis les pieds ici. Alors que tout ce qu'ils veulent venir faire, c'est contribuer à ici. Comment veut-on que ces personnes-là se sentent liées par nous, se sentent faire partie du « nous », qu'alors qu'ils n'ont même pas encore mis les pieds à Pierre-Éliott Trudeau, on dit qu'ils sont des menaces pour notre culture, pour notre langue et pour notre vivre ensemble. Le débat est tellement mal parti et à chaque fois que je lis des articles comme ça, ben ça me brise le cœur.
Il va y avoir un travail important à faire aussi au niveau politique là, pour arrêter de diaboliser les immigrants puis arrêter de diaboliser tout ça. Puis de oui, la défense de la langue française, mais en même temps de voir que, comme vous le dites, ce sont des humains et des histoires derrière tout ça. Yasmine, Dominique, merci. Merci Yasmine d'ailleurs d'avoir partagé ça avec nous ce matin, d'avoir donné une tranche de vie là-dessus, qui nous permet aussi de mieux comprendre ce qui se passe là, quand on le vit. Merci beaucoup à vous deux.
Bonne journée.
Bonne journée.